Tikin de John Muir, deuxième face de cette cassette unique, chapitre 6, page 55. Et pour finir, la voie nous fut barrée par une crevasse plus large encore que toutes les autres. Je l'allongeai vers le nord sur plus de 1500 mètres sans trouver d'endroit où la traverser, ni rien qui pût me faire espérer en trouver un plus loin. Je fis demi-tour et l'allongeai vers le sud, jusqu'au point où elle en rejoignait une autre, impossible également à franchir. Sur les 3 ou 4 kilomètres explorés, je n'avais vu qu'un seul point où je pouvais, à la grande rigueur, tenter un saut. Mais il me paraissait à la limite de mes possibilités. Je craignais de déraper sur le rebord d'en face. Celui sur lequel nous nous trouvions dominait l'autre d'une trentaine de centimètres, et pourtant, malgré cet avantage, la crevasse me semblait dangereusement béante. Au-delà d'une certaine largeur, on risque de sous-estimer la dimension d'une crevasse. Je concentrai donc toute mon attention pour tenter d'évaluer celle-là, et j'en arrivai à la conclusion que je devais pouvoir la franchir, mais si jamais j'étais obligé de revenir en arrière, la manœuvre inverse serait impraticable. Or, un montagnard avisé se hasarde rarement en terrain inconnu, surtout s'il y a danger, sans s'assurer d'abord qu'il pourra revenir en arrière au cas où il rencontrerait ensuite des obstacles imprévus. C'est une loi que tout montagnard respecte s'il tient à faire de vieux os, et quel que fût ma hâte, je me forçais à m'asseoir pour réfléchir un instant avant de l'enfreindre. Retraçant en pensée mon long cheminement tortueux, comme s'il figurait sur une carte, je constatai que je devais être en train de traverser le glacier plus en amont de 2 ou 3 kilomètres que le matin même, et que le secteur où je me débattais à présent m'était donc parfaitement inconnu. Que valait-il mieux faire? Risquer ce saut dangereux ou tenter de regagner les bois de la rive ouest, d'y faire un feu et de n'avoir plus que la faim à combattre en attendant le retour du jour? Mais je venais déjà de traverser une telle succession de difficultés de parcours que je devais admettre qu'il serait malaisé de les affronter en sens inverse, à travers la tempête de neige et à temps pour regagner les bois avant la nuit. De sorte que cette tentative risquait fort de se terminer par une triste nuit de danse sur la surface du glacier. Tandis que de l'autre côté de l'obstacle qui m'arrêtait, la surface du glacier semblait moins hostile et la rive est, probablement, était à peu près à la même distance que la rive ouest que j'avais quittée. Si bien que j'étais fortement tenté d'aller de l'avant. Pourtant, ce saut à faire au-dessus du vide n'en était pas moins redoutable. Pour finir, et parce que de deux mots il faut choisir le moindre, je choisis de garder derrière moi les dangers déjà encourus et d'affronter ceux qui m'attendaient plus loin. Je pris mon élan, atterris sur l'autre bord, mais avec si peu de marge que je tremblais plus que jamais à l'idée de devoir effectuer le même saut en sens inverse. Stikin me suivit comme si de rien n'était, et nous reprîmes notre course en avant avec une ardeur renouvelée, fort de l'espoir que nous avions franchi le plus gros des obstacles. Mais nous n'avions pas parcouru plus de 200 ou 300 mètres que nous étions arrêtés par la crevasse la plus large que nous ayons rencontrée jusqu'alors. Je me hâtai évidemment de l'explorer de part et d'autre, dans l'espoir de trouver quelque pont ou quelque moyen de la contourner à l'une ou l'autre extrémité. Je l'allongeai d'abord vers l'amont pour découvrir au bout de 1200 ou 1300 mètres exactement ce que j'avais redouté. Elle rejoignait la crevasse que je venais justement de franchir. Faisant demi-tour, je la suivis vers l'aval. Mais à l'autre bout, hélas, elle rejoignait aussi la même crevasse, ayant conservé tout du long une largeur constante de 15 à 16 mètres. Il me fallait me rendre à l'évidence. Nous nous trouvions à présent sur une sorte d'île étroite, longue de 3 km environ, et qui ne présentait que deux issues possibles. La première, c'était la voie qui nous avait amenés là, et plus risquée encore dans le sens du retour. La seconde, c'était une lame de glace en contrebas qui formait comme un pont quasiment inaccessible au milieu de la grande crevasse. Chapitre 7. Une fois admise cette éprouvante réalité, je me hâtai de revenir au pont en lame de sabre pour l'examiner prudemment. Les crevasses sont provoquées par les surtensions qui se produisent dans un glacier lorsque ces différentes parties ne se déplacent pas à la même vitesse, en particulier lorsque le lit du glacier présente des bosses et des renflements. Elles ne sont au début que de simples fêlures dans lesquelles on aurait peine à glisser la lame d'un couteau, puis elles s'ouvrent progressivement selon la poussée et la profondeur du glacier. Mais certaines de ces fentes sont discontinues, et comme dans les craquelures du bois qui se fendille et s'ouvre, il arrive que les deux bords restent reliés par un mince éclat en travers. Certaines crevasses restent ouvertes durant des mois ou des années, et la fonte de leurs bords accentue encore leur écartement longtemps après que la poussée a cessé d'opérer. Pendant ce temps, les éclats de glace qui relient un bord à l'autre fondent eux aussi progressivement, et là où il pouvait y avoir au départ une sorte de pont au niveau de l'ensemble, d'une solidité et d'une largeur sûre, il ne reste plus qu'une sorte de lame de rasoir à la verticale. De plus, l'exposition aux effets du soleil et des intempéries étant plus forte au milieu de cette lame, elle se fait davantage ronger au centre et finit par présenter le profil incurvé des câbles d'un pont suspendu. La crevasse qui nous arrêtait était manifestement d'un âge respectable et l'éclat de glace en travers avait subi une érosion telle qu'il ne restait plus qu'un semblant de pont, le plus inaccessible et le plus dangereux qu'il m'eût été donné de voir. La largeur de la crevasse à cet endroit devait dépasser 16 mètres et la traverse de glace, en biais naturellement, dépassait largement les 20 mètres de long. Avec son profil de câble distendu, elle descendait à l'endroit le plus creux, à 8 ou 9 mètres au-dessous du niveau du glacier. Et il y avait encore, d'un côté comme de l'autre, là où elle se rattachait au glacier, une dénivelée de 2 ou 3 mètres. Tout le problème était donc d'arriver à se laisser glisser sur cette hauteur le long de la paroi verticale pour placer les pieds sur l'étroit pont de glace, puis, parvenu de l'autre côté, à se hisser de nouveau jusqu'à la surface du glacier, manœuvre au succès incertain. Des nombreux risques et périls que j'avais déjà rencontrés au cours de mes années d'excursion à travers monts et glaciers, celui-là entre tous paraissait implacable. Et il se présentait dans les pires circonstances possibles. Nous étions affamés, trempés jusqu'à l'os, la neige nous aveuglait, le ciel s'assombrissait, la nuit se faisait proche. C'était un défi sans merci. Mais nous n'avions pas le choix. Alors je me mis à l'ouvrage. Pour commencer, sur le rebord de la crevasse, je taillai dans la glace un petit nid en creux pour y caler mes genoux. Non pas à l'aplomb immédiat du pont de glace, mais en me décalant légèrement de côté. De là, en me penchant, je taillai avec mon piolet une marche dans la paroi de glace à une quarantaine de centimètres de la surface. entaille nécessairement peu profonde en raison de la pique. J'en fus néanmoins satisfait. J'avais réussi à lui donner une légère inclinaison vers l'intérieur et la prise pour mes talons n'en serait que meilleure. Puis, je me glissai avec précaution jusqu'à cette marche, y arrimai mes pieds et m'accroupissant lentement le plus bas possible, le côté gauche collé au mur, m'agrippai de la main gauche à une entaille afin de résister au vent, tandis que de la droite, je me mettais en devoir de tailler dans la glace une nouvelle série de marches et d'encoches. Le plus dur dans cette entreprise était de garder l'équilibre en dépit des rafales de vent et du maniement du piolet. À chaque coup donné se jouait la vie ou la mort, et les marches ainsi taillées décideraient elles aussi de mon sort. Lorsque je pus joindre enfin l'extrémité du pont de glace, je m'efforçai d'y ménager, toujours à coups de piolet, une plateforme à peu près plane d'une vingtaine de centimètres de large, puis ce fut le périlleux exercice, éprouvant pour les nerfs, qui consistait à garder l'équilibre sur cet appui étroit et glissant, tout en effectuant la manœuvre de se pencher pour s'asseoir à califourchon sur la lame de glace. En comparaison de cela, la traversée n'avait en elle-même rien de sorcier. Il suffisait progressivement d'émousser par petits bouts l'arête dure et anguleuse et d'avancer centimètre par centimètre, ou guère davantage, toujours assis, en s'aidant des genoux serrés pour conserver un équilibre précaire. L'effroyable abîme de chaque côté, mieux valait ne pas y penser. L'univers entier se résumait pour moi à cette arête bleue d'acier, là, sous mes yeux. Mais le plus dur restait à faire. Ayant enfin traversé, à petites secousses méthodiques, ayant taillé au piolet une seconde plateforme semblable à la première, il me restait à me relever, à me hisser sur cet étroit socle, à m'agripper comme je le pourrais et à tailler avec soin le long de la paroi verticale le grossier échalier qui me permettrait de franchir ce mur. Buriner, escalader, s'agripper des pieds et des mains, sans avoir plus de prise que de simples encoches. Dans des circonstances comme celle-là, le corps tout entier n'est plus que regard et toute l'attention, toute la force d'âme dont est capable un simple mortel sont transmuées en une étrange énergie qui va bien au-delà de la conscience et de la volonté. Je ne me souviens pas d'avoir jamais été de ma vie sous une tension aussi forte, ni aussi longtemps. Comment je gravis cette paroi, je ne le saurai jamais. Il me semble que c'est une chose que quelqu'un d'autre a faite pour moi. Je n'ai jamais défié la mort, jamais ri d'elle, bien qu'il me soit arrivé parfois durant mes explorations, de me dire qu'il serait meilleur de trouver une fin au cœur d'un glacier ou d'une noble montagne plutôt que dans un quelconque accident sur la terre ferme. Mais la plus belle des morts, nette, rapide, pure comme le cristal, n'est attirante que de loin. Vue de près, offerte, elle est aveuglante à regarder en face. Même pour qui peut se dire sans ingratitude qu'il a déjà vécu autant de joie que pourrait en contenir une bonne douzaine de vies. Chapitre 8. J'étais sauvé. Mestiquine de l'autre côté, pauvre petite bestiole dégoulinante et trempée. Lorsque j'avais décidé de tenter la traversée, lorsque je m'étais mis à genoux, à poser les premiers jalons de mon évasion, il était venu tout contre moi, par derrière. Il avait pressé sa tête contre mon épaule et de son mystérieux regard, il avait inspecté tour à tour le vide au-dessous de nous, l'arête de glace en travers, la paroi d'en face. puis il m'avait regardé droit dans les yeux, d'un air incrédule et soucieux, et il s'était mis tout doucement à gémir. Il m'avait dit clairement dans son langage, « Non, ce n'est pas possible, tu ne vas pas te risquer là-dessus. » C'était la première fois que je le voyais contempler délibérément le vide d'une crevasse. La première fois aussi qu'il m'adressait ce regard anxieux, ardent, intense. Il avait reconnu le danger au premier coup d'œil. Il l'avait évalué et cela me semblait la preuve d'une étonnante sagacité. Jamais jusqu'alors cet audacieux jouet de peluche n'avait paru s'être rendu compte que la glace était une chose glissante ou que le danger existait. Mais ce regard, le ton de cette voix modulant sa complainte et cet aveu de peur me semblèrent si humains que sans même y penser, je me mis à lui répondre avec compassion, comme on le ferait à un jeune garçon en tâchant de calmer son effroi. Ce qui calmait peut-être mes propres angoisses. « Allons, ça va, tais-toi, mon vieux, lui disais-je. Tu verras, on y arrivera, même si ce n'est pas sans mal. Ce qui est trop facile ne vaut jamais rien de bon dans ce bas monde. Tu verras, il faut risquer sa vie pour la sauver. Tout ce qui peut nous arriver de pire ici, c'est de glisser. Et alors ? Tu as vu ? Tu parles d'une tombe que nous aurions. Le grand luxe, mon vieux, et nos bons vieux os iraient enrichir la moraine. Que rêver de mieux ? Mais ce serment ne le rassura en rien. Il se mit à pleurer pour de bon. Et après un dernier regard en direction du vide, il se lança dans une fuite désespérée, cherchant avec anxiété un autre endroit où traverser. Le temps qu'il fut de retour, déconcerté, bredouille, j'avais déjà commencé ma descente. Je ne l'avais pas vu, faute d'oser lever les yeux, mais il s'était clairement fait entendre. Et quand il eut irrémédiablement compris que j'avais décidé de traverser, il se mit à hurler haut et clair son désespoir. Qu'il eût perçu le danger n'avait en soi rien d'étonnant, mais ce qui me frappait, c'est qu'il l'eût évalué si vite et avec tant de justesse. Seul un vrai montagnard pouvait le détecter aussi rapidement, distinguant au premier coup d'œil le péril authentique du danger spectaculaire mais moins réel. Lorsqu'il me vit sur l'autre bord, il se mit à hurler plus lamentablement que jamais. Après plusieurs allées venues infructueuses, dans l'espoir de trouver tout de même une autre issue, il revint au bord, en face du pont de glace, et reprit ses lamentations en hurlant à la mort. Était-ce bien là Stikine l'impassible, Stikine le stoïcien ? Je lui lançai de bonnes paroles d'encouragement en lui affirmant que le pont de glace n'était pas aussi redoutable qu'il y paraissait, et que je l'avais si bien aplati que sous ses pattes il serait tout à fait sûr. Le franchir ne serait qu'un jeu. Mais il redoutait trop d'essayer. Il était étrange qu'un si petit animal pût éprouver une frayeur aussi grande et aussi sage, si l'on y pense. Je redoublai de persuasion, l'appelant encore, l'assurant qu'il ne risquait rien, qu'il n'avait qu'à venir. Il lui suffisait d'essayer. Il se taisait un instant, appréciait le danger du regard, puis lançait vers le ciel, haut et fort, sa conviction inébranlable qu'il ne pourrait jamais, jamais emprunter cette voie risquée. Assis sur son derrière, la tête renversée en arrière, il modulait son désespoir. Jamais je n'en sortirai, je ne peux pas, je ne peux pas. Toute sa retenue, tout son sang-froid avait été balayé par un raz de marée panique. Si le danger avait été moindre, sa détresse eût paru ridicule. Mais il n'était pas fou, et c'était bel et bien la mort qui guettait dans l'ombre, au fond de cet abîme sans merci. Ses pleurs, à vous fendre l'âme, faisaient peut-être appel au ciel, et peut-être y étaient-ils entendus. En tout cas, l'étrange petit être, si secret, si fermé jusqu'ici, semblait à présent transparent. Son cœur et son esprit fonctionnaient désormais à nu, comme le mécanisme d'une horloge hors de son coffre. Ses appels, ses gestes, ses frayeurs, ses espoirs étaient à ce point humains qu'on ne pouvait pas s'y tromper. Et il me semblait hors de doute qu'il comprenait tout ce que je disais. Je me faisais du souci à l'idée d'avoir à le laisser là toute la nuit, avec la crainte de ne pas pouvoir le retrouver le lendemain. Mais il me semblait impossible de le convaincre de se risquer. Dans l'espoir pourtant de l'y obliger, par la peur de se voir abandonné sur place, je fis semblant de m'en aller et disparus derrière un monticule de glace. Mais cela ne servit à rien. Il se contenta de gémir plus âprement que jamais. Aussi, au bout d'une minute, décidai-je de réapparaître et d'essayer la menace. Je lui criai d'une voix sévère que maintenant je m'en allais. Tant pis pour lui, je ne pouvais plus l'attendre. Et s'il ne venait toujours pas, je ne pouvais lui promettre qu'une chose. Ce serait de revenir le chercher le lendemain. Et qu'il n'essaye pas de retourner dans les bois. Les loups l'y tueraient certainement. J'achevai mon discours en l'incitant fortement de la voix et du geste à venir, venir, venir. Chapitre 9. Il avait bien compris tout ce que je venais de dire. Pour finir, avec le courage du désespoir, il se tut. Et retenant son souffle, il alla se nicher en rampant dans le creux que j'avais fait pour mes genoux. Il pressait son petit corps contre la glace comme s'il cherchait à profiter du frein que produisait le frottement de chaque poil, et de là, lentement, le regard fixé sur la première marche, il fit glisser vers elle ses pattes de devant, les passa par-dessus bord, toucha la surface visée, y réunit les quatre pattes toutes serrées, la queue en l'air et le museau en bas. Puis, sans soulever les pattes, pour autant que je pus m'en rendre compte à travers la neige qui tombait, il reprit lentement la même reptation en direction de la marche suivante, puis de celle d'après, et ainsi de suite pour gagner enfin. Oh ! Après un si long temps, le début du pont de glace. Là, soulevant les pattes et les reposant avec la lente régularité d'un pendule, comme s'il comptait dans sa tête « 1, 2, 3, 1, 2, 3 », résistant de toutes ses forces aux rafales de vent et prêtant une attention soutenue à chacun de ses petits pas, il traversa la crevasse et se retrouva contre la paroi. Juste au-dessus, agenouillé, je l'attendais, prêt à l'empoigner pour le soulever s'il arrivait à se hisser à ma portée. Il s'arrêta dans un silence de mort. C'était le moment que je redoutais le plus, c'était là que je craignais de le voir échouer. Les chiens sont de piètres grimpeurs. Je n'avais pas de corde. Si j'en avais eu une, j'aurais tenté de l'attraper avec un nœud coulant pour le hisser jusqu'à moi. J'étais en train de réfléchir au moyen de confectionner une corde de fortune avec mes vêtements lorsque je m'aperçus qu'il regardait intensément la série de marches que j'avais taillées dans le mur, comme s'il cherchait à les compter ou à en imprimer la position exacte dans sa tête. Et puis, tout à coup, en un élan, plaçant ses pattes dans les encoches à une telle allure que je n'eus pas le temps de voir comment, il passa devant moi comme une fusée, sauvé. Mais la scène qui s'ensuivit, de la folie pure. Bravo, bravo, criai-je. Bien joué, mon vieux, bon chien, brave chien, bien joué. J'aurais voulu le prendre, le caresser, mais lui ne voulait pas se laisser prendre. Jamais encore je n'avais vu, et je n'ai jamais revu depuis, une remontée aussi délirante depuis le fin fond du désespoir jusqu'à l'exultation la plus folle, triomphante, incontrôlable. Il sautait comme un éclair dans toutes les directions à la fois, criant, hurlant comme un fou, décrivant des boucles, des tourbillons, des cercles, comme une feuille en automne, se jetant par terre, s'y roulant d'un flanc sur l'autre, puis cul par-dessus tête, la queue au vent, laissant échapper dans ce délire un torrent de jappements hystériques entrecoupés de cris brefs ou buvant l'air à grandes goulées. Je voulus accourir pour tenter de le calmer, craignant de le voir mourir de joie. Mais il m'échappa des mains et fila 100 mètres plus loin, ses petites pattes rendues invisibles par la frénésie de la fuite. Soudain, s'étant ravisé, il fit demi-tour et se jeta sur moi, manquant de me renverser, poussant une suite ininterrompue de petits cris aigus qui disaient clairement « Sauvé, sauvé, sauvé !» Et le voilà reparti, à courir, à se rouler par terre, agité de tremblements et même de sortes de sanglots. Une telle tempête d'émotions pouvait probablement le tuer. Le noble chant de triomphe que Moïse lança vers le ciel, après avoir échappé à l'Égypte et à la mer Rouge, n'était rien à côté de celui de Stikine. Qui eût pu croire que cette indifférente petite créature était capable d'un tel revirement? Nul, en tout cas, ne se fut retenu de pleurer de joie avec lui. Mais rien ne vaut l'effort pour tempérer les sentiments trop vifs, la crainte comme la joie. Je fis mine de repartir, l'avertissant de ma voix la plus revêche que c'en était fini de faire l'idiot, qu'il fallait partir et que la nuit venait. Ni l'un ni l'autre ne craignions plus une épreuve comme celle-là. Le ciel, à coup sûr, devait considérer qu'une seule de ce genre suffisait pour toute une vie. Le glacier devant nous était balafré de milliers de crevasses, mais c'étaient des crevasses ordinaires. La joie de la délivrance brûlait en nous comme un feu, et nous courions sans fatigue, chaque muscle à chaque rebond, fier de sa force et de son ressort. Stikine volait par-dessus les obstacles, et seule la nuit tombante lui fut retrouver son allure plus pondérée de renard. Chapitre 10. Enfin réapparurent les flancs des montagnes ennuagées et la terre ferme sous nos pieds. Nous étions sauvés. Survint alors la fatigue. Le danger avait disparu et avec lui nos dernières forces. Nous longeâmes en chancelant la moraine latérale, titubant dans la pénombre par-dessus les rocs et les troncs, nous débattant à travers les inextricables broussailles du sous-bois où nous nous étions abrités le matin même, puis pataugeant dans la boue épaisse de la moraine terminale. Nous retrouvâmes le camp vers 10 heures du soir. Là, nous attendait un bon feu et un bon souper. Un groupe d'Indiens Huna, H2ONA, était venu rendre visite au révérend Young et ils avaient offert à notre expédition de la viande de marsouin et des fraises des bois. Notre chasseur, de son côté, avait rapporté une chèvre sauvage. Mais Stikine et moi, trop épuisés pour pouvoir manger, ne sûmes que nous effondrer sur nos couches pour sombrer aussitôt dans un sommeil agité. Celui qui a dit un jour « Plus dure est la peine, meilleur le repos », ne devait pas savoir ce qu'est la profonde fatigue. Stikine, tout en dormant, n'arrêtait pas de se relever pour marmonner en langage chien. Et sans doute se retrouvait-il en rêve au bord de l'effroyable crevasse. Et il en fut de même pour moi cette nuit-là, et bien d'autres, longtemps après, chaque fois que j'étais submergé de fatigue. Stikine, après cela, ne fut plus le même chien. Tout le temps de l'expédition, au lieu de se murer dans sa tour d'ivoire, il ne me quitta plus. Il se couchait tout près de moi et me suivait du coin de l'œil pour ne jamais me perdre de vue. Il était rare qu'il acceptât d'une autre main que la mienne un morceau de nourriture aussi tentant fut-il. Le soir, dans le silence, autour du feu de camp, il se rapprochait de moi, posait sa tête sur mes genoux et levait vers moi un long regard ardent et plein de dévotion, comme si j'étais un dieu. Et quand nos yeux se rencontraient, il me semblait qu'il cherchait à me dire « N'est-ce pas que c'était terrible là-haut sur le glacier, ce que nous avons vécu ?» Les années ont passé, mais rien ne s'est effacé dans mon souvenir de ce jour de tempête en Alaska. Alors même que j'écris, tout me revient en mémoire, comme un torrent déboule une pente en grondant, comme si j'étais encore au cœur de cette journée. Je vois venir les nuages gris volant bas, porteurs de déluges et de neige. Je revois les murailles de glace dressées, écrasantes au-dessus de la forêt laminée. Je revois la cascade de glace figée, majestueuse, l'imposant étalement du glacier qui se déversait et s'étalait au-dessous de ses sources montagnardes. Et puis, au cœur de ce décor, la crevasse. La crevasse béante, symbole de cette vallée qui broie et qui porte la mort. Les nuages se traînent au ras de la glace, et là, au bord du vide, je vois le petit Stikine, j'entends ses appels à l'aide, puis son délire de joie. J'ai connu bien des chiens. Je raconterai pendant des heures des histoires qui démontrent leur sagesse et leur dévouement. Mais c'est encore envers Stikine que j'ai la dette la plus profonde. Il avait d'abord été le plus distant et le plus renfermé de mes compagnons à quatre pattes. Il devint ensuite, en un seul jour, celui dont je me sentis à tout jamais le plus proche. Notre lutte commune entre la vie et la mort l'avait placé en pleine lumière, et c'est à travers lui, pour toujours, qu'il me semble mieux comprendre mes compagnons de route, humains et animaux, tout ce qui vit et meurt. Ce qu'il advint de Stikine par la suite, aucun de ses amis ne le sait. Pour ma part, après ce voyage d'études, je partis pour la Californie et je ne devais plus revoir mon petit compagnon. J'en demandai des nouvelles par écrit avec insistance au révérend Young, mais il finit par me répondre qu'hélas, durant l'été 1883, le petit chien avait été enlevé par un touriste à Fort Wrangel et emmené sur un paquebot. Le destin de Stikine est donc nimbé de mystère. Nul doute qu'à présent, il n'ait quitté ce monde, franchi la dernière crevasse. Mais il ne sera pas oublié. Pour moi, Stikine ne peut pas mourir. Deux mots maintenant sur John Muir, M-U-I-R, l'auteur. 1838-1914. Presque inconnu en Europe, John Muir est l'une des grandes figures de l'Amérique. écologiste avant même que le mot soit inventé, il a été l'un des premiers à proclamer l'urgence de protéger la nature sauvage. Il y a de cela plus de 100 ans. Il fut l'un des fondateurs des parcs nationaux aux États-Unis. C'était un homme singulier, passionné de nature vierge et de grands espaces. Explorateur à une époque où il y avait encore tant de régions à découvrir, il parcourut d'abord la Sierra Nevada, s'attachant plus particulièrement à l'étude des glaciers. Après 6 années d'exploration, il revint à la civilisation, écrivant des livres et des articles pour sensibiliser l'opinion sur la nécessité de protéger la nature. En 1879, il repart pour l'Alaska afin de comparer les glaciers de cette région avec ceux de la Sierra. En compagnie d'un missionnaire et de 3 Indiens du Nord, il explore en canoë les fjords et les criques de cette côte déchiquetée et découvre la baie du glacier. L'expédition est reprise et approfondie l'année suivante, en 1880 donc, et un petit chien, cette fois, prend place à bord du canoë. Rose-Marie Vassallo, V-A-2-S-A-2-L-O, la traductrice de ce livre, vit en Bretagne, près de la mer, avec son mari et ses 4 enfants, grands dévoreurs de livres. Entre ses multiples activités, Rose-Marie s'installe devant sa machine à écrire et il en sort des textes publiés dans les albums du Père Castor et les traductions. Lorsqu'on vient de lire un livre et d'y prendre plaisir, dit-elle, on éprouve le désir de le propager et l'on s'empresse de le prêter à qui semble pouvoir l'aimer. Mon travail de traductrice ressemble à cette démarche. J'essaie par là, tout simplement, de partager ce qui m'a plu.
Voilà, c'était l'histoire de Stikin, S-T-I-C-K-2-E-N, de John Muir, M-U-I-R, édité par Flammarion, la collection Castor Poche en 1982. J'espère que ce livre vous aura plu.
Et voici les 2 titres de ZZ Top, Jesus Just Left Chicago et Blue Jean Blues.
I done ran into my baby and finally found my old blue jeans. To me.